à l'écoute de RFI, Radio France Internationale, et je vous en remercie. Il est minuit en temps universel, une heure à Paris, lors d'un nouveau journal.
Mathis Limano.
À la une, la COP29 s'est ouverte ce lundi. En toile de fond, la réélection de Donald Trump et les conflits dans le monde. Le chef de l'ONU Climat en a appelé au multilatéralisme. Et alors que la conférence pour le climat se tient à Bakou, en Azerbaïdjan, les défenseurs de l'environnement multiplient les mises en garde. Le pays bafoue sciemment le droit international et les droits de l'homme. Dans le reste de l'actualité, les conflits au Moyen-Orient, les frappes israéliennes sur le Liban se poursuivent. Elles frappent de plus en plus au nord. Et puis Donald Trump et Vladimir Poutine se sont-ils appelés pour parler de la situation en Ukraine? Le Kremlin dément en tout cas l'information. Cap sur la COP29 qui se tient à Bakou, en Azerbaïdjan. L'objectif de cette COP, s'accorder sur un nouveau montant d'aide à destination des pays pauvres plus vulnérables face au changement climatique. Simon Steele est le président de l'ONU Climat et malgré la réélection de Donald Trump et les conflits qui font rage dans le monde, il en appelle au multilatéralisme. Écoutez.
Arrêtons de nous dire que le financement de l'action climatique est une œuvre de charité. Un nouvel objectif financier ambitieux est dans l'intérêt de chaque nation, y compris les plus grandes et les plus riches. Nous ne pouvons pas quitter Bakou sans un accord ambitieux. Il est temps de montrer que la coopération internationale n'est pas au point mort, qu'elle va se renforcer ici. Alors je vous exhorte, mobilisons-nous tous.
Let us rise together.
La grande conférence de l'ONU sur le climat, je vous le disais, se tient à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Pays autoritaire qui bafoue sciemment le droit international et les droits de l'homme. Alors en amont de la COP, Stéphanie Schuller, les ONG internationales de défense des droits humains et les rapporteurs spéciaux de l'ONU ont multiplié leur mise en garde.
Anar Mamadli, militante du climat, est emprisonnée depuis fin avril. Mais il n'est pas le seul Azerbaïdjanais à être réduit au silence, dénonce Marie Lorloir, rapporteuse spéciale de l'ONU sur les défenseurs des droits de l'homme.
Il y a eu beaucoup d'arrestations de défenseurs du climat et de journalistes. Pour l'Azerbaïdjan, la COP sert de prétexte pour étendre encore davantage la répression, alors que le pays réprime déjà toute forme de critique contre la politique du gouvernement.
Disposer d'un environnement sain est un droit humain et le fait de le défendre est garanti par le droit international. Mais au sein même des COP de l'ONU, ce droit est de moins en moins garanti, s'inquiète Michel Forst, rapporteur spécial sur les défenseurs de l'environnement.
On voit que le processus se dégrade. Sharm el-Sheikh en Égypte a été une COP difficile parce que beaucoup de défenseurs n'ont pas eu un visa. À Dubaï, l'an dernier, c'est le pays dans lequel il n'y a pas de défenseurs. Pour une simple raison, c'est qu'ils sont soit en prison, soit à l'étranger, en exil. Et l'Azerbaïdjan, ça va être encore autre chose. Il est interdit à Bakou de dire un mot de la situation des droits humains en Azerbaïdjan.
Amnesty International, Human Rights Watch et la FIDH ont appelé le régime azerbaïdjanais à libérer les prisonniers politiques en vain.
Stéphanie Schuller du service environnement de RFI. Les États-Unis ont mené des frappes en Syrie ce lundi, annonce du Pentagone. Elles ont visé 9 sites liés à des groupes soutenus par l'Iran en réponse aux attaques contre les troupes américaines dans le pays, poursuit le département de la défense. Sur le front libanais, une frappe israélienne dans l'extrême nord du pays a tué 8 personnes. Un responsable local souligne que c'est l'une des attaques les plus éloignées de la frontière avec Israël depuis le début de la guerre ouverte avec le Hezbollah. C'est dans ce contexte que s'est tenu un double sommet ce lundi en Arabie Saoudite. Le Royaume a convié les 22 pays de la Ligue arabe et la cinquantaine d'États réunis au sein de l'Organisation de la coopération islamique. Une rencontre consacrée au conflit en cours dans la région. À cette occasion, le Premier ministre libanais Najib Mikati a lancé un nouvel appel à l'aide.
Le Liban traverse une crise historique et fatale sans précédent qui menace son présent et son avenir. Il subit une agression israélienne flagrante qui bafoue les règles les plus élémentaires du droit international humanitaire et des conventions de Genève destinées à protéger les civils dans les conflits armés. Je vous invite à soutenir l'État libanais et ses institutions constitutionnelles, souveraines et monétaires, et à continuer d'envoyer une aide humanitaire, alimentaire et sanitaire urgente. J'appelle également les pays de la région et du monde à respecter le caractère distinctif du Liban et à le soutenir en tant que modèle pluraliste exemplaire pour toutes les sociétés de ce type. Je les invite à ne pas intervenir dans ces affaires intérieures en soutenant un groupe ou un autre, mais à soutenir l'État lui-même en tant qu'entité.
Le monde attend que la future administration Trump mette fin aux guerres d'Israël au Liban et à Gaza, comme elle l'a promis. Déclaration de l'Iran ce lundi lors du sommet. L'Iran, plus exposé que jamais à des frappes sur ses installations nucléaires, selon le ministre israélien de la Défense. Deux semaines après qu'elles aient été épargnées lors de la riposte contre Téhéran, Israël, dont le bras avait été, semble-t-il, retenu par Joe Biden, pourrait profiter du changement de locataire à la Maison-Blanche. Donald Trump, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, a-t-il réellement initié une conversation jeudi dernier avec Vladimir Poutine? Citant des sources anonymes, le Washington Post a affirmé que les deux hommes avaient eu un premier entretien depuis la victoire du républicain. Cela ne correspond absolument pas à la réalité. C'est une pure invention, une information fausse, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de plan concret pour une telle discussion. RFI Moscou, Anissa El-Jabri.
Entre la prudence et une forme de jubilation pas tout à fait assumée, le climat en Russie depuis l'élection de Donald Trump n'est pas encore stabilisé. L'affaire du coup de fil Trump-Poutine fait-elle les gros titres et même démentie ? Elle est présentée comme une avancée positive pour la Russie. Écoutez ce politologue, c'était à la mi-journée sur la première chaîne de télévision du pays.
Sur le principe, il est presque évident qu'un tel appel peut avoir lieu. Vladimir Poutine a déclaré il n'y a pas si longtemps qu'il était prêt à parler à Trump. Et Trump a dit qu'il était prêt à appeler Vladimir Poutine. Le fait qu'il puisse y avoir un tel appel téléphonique entre le futur chef d'État des États-Unis et l'actuel chef de la Fédération de Russie est en soi significatif. Peu importe qu'il y ait eu un appel ou non. Ce qui compte, c'est le fait qu'une telle connexion soit possible. C'était impossible à imaginer avec Biden, par exemple. Il ne pouvait pas se permettre d'appeler Vladimir Poutine pour des raisons purement de réputation pour lui-même et pour son audience. Pour eux, ce serait une trahison de l'Ukraine. C'est pourquoi l'Ukraine a réagi si vivement à cet éventuel appel hypothétique. Ils ont fait comme si cela n'avait pas eu lieu.
Toujours selon le Washington Post, Donald Trump aurait, jeudi, appelé le président russe à ne pas provoquer d'escalade en Ukraine. Samedi soir, Vladimir Poutine, lui, signait le traité de défense mutuelle avec Pyongyang. Le Kremlin, jusqu'ici, s'est montré ambigu sur la présence de soldats nord-coréens parmi ses troupes. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Et en Ukraine, un barrage dans l'est du pays, endommagé par une frappe russe, provoquant d'importantes montées des eaux, selon le gouverneur local, faisant craindre des inondations pour les localités voisines. Le week-end dernier, des attaques de drones réciproques d'une ampleur inédite ont eu lieu. Elles ont fait 6 morts et une vingtaine de blessés dans les villes ukrainiennes de Mykolaïv et Zaporijjia. La CPI confirme l'ouverture d'une enquête visant son procureur en chef, son nom Karim Khan. La CPI mentionne ainsi une inconduite sexuelle présumée dans un communiqué, ce qui confirme une information dévoilée vendredi par Reuters. Karim Khan a déclaré de son côté qu'il continuerait à exercer ses fonctions pour les questions non liées à l'enquête. Accord trouvé entre le gouvernement de Rome et la compagnie aérienne allemande Lufthansa. Accord qui porte sur la cession de la compagnie nationale italienne ITA Airways. Le mariage prévoit dans un premier temps une acquisition de 41% d'ITA Airways par la Lufthansa. Cela représente 325 millions d'euros. Et dans l'affaire du crash d'un Boeing 737 MAX de l'Ethiopian Airlines en mars 2019, l'avion s'était écrasé 6 minutes après son décollage de la capitale éthiopienne, tuant l'ensemble des passagers et équipages. Le constructeur américain a scellé un accord avec les proches d'une victime. Il doit encore être validé par le juge. Le procès devait s'ouvrir ce mardi aux États-Unis. Victoire tout en maîtrise pour Alexander Zverev au Masters ATP à Turin en Italie. L'Allemand a battu Andrei Rublev en 2-7, 6-4, 6-4. Plus tôt dans la journée, le Norvégien Casper Ruud a fait sensation en battant l'un des prétendants au titre, Carlos Alcaraz, sur le score de 6-1, 7-5. Et en football, alors que la trêve internationale vient de débuter, Jorge Sampaoli, nommé nouvel entraîneur du Stade Rennais, l'ancien coach de l'OM et de la sélection argentine, remplace Julien Stéphan, mis à l'écart jeudi après une série de mauvais résultats. RFI, il est 1h10 à Paris, minuit 10 en temps universel. Retrouvez tout de suite Couleur Tropicale avec Claudie Ciara.